Le journal, Thomas Larabie. Bonjour Thomas.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Premier titre, l'auteur des attentats de Nouvelle-Zélande est en prison.
Il n'a pas demandé de caution et reste derrière les barreaux jusqu'à sa prochaine audience début avril. Hier, cet Australien de 28 ans a tué 49 personnes dans deux mosquées de la ville de Christchurch. Notre envoyé spécial dressera son portrait qui se dessine peu à peu. La grogne ne faiblit pas en Algérie. Hier, plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté contre le président Bouteflika. Reportage dans le cortège à Alger. Enfin, de nombreuses mobilisations en France cet après-midi. La marche du siècle pour le climat, l'acte 18, des gilets jaunes, les forains, les syndicats. Nous verrons comment certains espèrent créer une convergence de ces luttes. Pierre, votre invité ce matin.
Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Avec lui, bien sûr, des questions sur l'acte 18 des gilets jaunes aujourd'hui. Et puis, les élections européennes, l'initiative de Raphaël Glucksmann qui veut unir la gauche, lui redonner un espoir.
France Inter.
L'auteur des attentats en Nouvelle-Zélande est en prison, inculpé pour meurtre. L'Australien de 28 ans n'a pas demandé de libération sous caution. Il reste donc derrière les barreaux jusqu'à sa prochaine audience le 5 avril. Hier, ce militant d'extrême droite a fait feu dans deux mosquées à l'heure de la prière, tuant 49 personnes et faisant 50 blessés. Un carnage qu'il a retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Carrie Newton, vous êtes à Christchurch où s'est déroulé le massacre. Et ce matin, on en sait un petit peu plus sur le profil de ce terroriste.
Oui, on en sait un peu plus sur Brenton Tarrant cet après-midi, même s'il reste encore beaucoup de trous dans son parcours. Alors, il provient d'une famille de classe moyenne australienne. Il a beaucoup voyagé. Il serait même venu dans l'est de la France il y a 2 ans. Un voyage qui l'aurait inspiré pour les massacres qu'il a commis hier. Les enquêteurs ont passé la journée à fouiller une maison où il aurait habité à Dunedin, à 300 km au sud de Christchurch, mais pour l'instant, ils n'ont pas partagé leur découverte. Ce matin, l'Australien a été présenté à un juge et est officiellement inculpé de meurtre. D'autres chefs d'accusation pourraient alourdir son dossier dans les jours qui viennent. Ça a été une audience express, 3 minutes, pendant lesquelles il n'a pas dit un mot, ni exprimé aucun remords.
Et après ce massacre, Carrie, la première ministre Jacinda Ardern souhaite durcir la loi sur les armes à feu en Nouvelle-Zélande.
Oui, la première ministre en visite aujourd'hui à Christchurch a prévenu, ces massacres rendent incontournable une révision de la loi sur les armes à feu. Plusieurs fois, ces 10 dernières années, le débat avait été avorté et la loi était restée la même. Si la situation en Nouvelle-Zélande n'a rien à voir avec celle des États-Unis, il est vrai qu'il y a une réelle culture des armes à feu et de la chasse ici. Et comme Brenton Tarrant s'est procuré légalement ses cinq armes après avoir obtenu son permis de port d'armes en 2017, ce serait l'occasion pour le gouvernement de tacler les pro-armes à feu.
Merci Carrie Newton en direct de Nouvelle-Zélande. Une marée humaine à Alger hier, mais aussi à Constantine ou à Oran. Alors il n'y a pas de système de comptage en Algérie, mais plusieurs centaines de milliers de personnes auraient manifesté pour réclamer le départ d'Abdelaziz Bouteflika, ainsi que celui de son premier ministre Nourdine Bédoui. En fait, pour réclamer les têtes de ceux qui gouvernent depuis trop longtemps, selon les manifestants. Le tout dans une ambiance de fête, sans dégâts ni blessés, car les mécontents veillent au grain, Waïba Filali.
En plein milieu du cortège, Imen et Nasser portent des gants en plastique. Les deux étudiants tiennent un sac poubelle et ramassent les déchets qui traînent par terre.
On n'a pas envie que nos rues soient remplies de ces déchets-là. Du coup, on essaie de les nettoyer parce que ça reste quand même nos rues. On veut donner une bonne image, vous voyez.
S'il y a des personnes qui veulent faire des embrouilles ou casser ou quelque chose comme ça, on est là pour apaiser, voilà, essayer de les calmer un peu.
En ramassant une bouteille d'eau, les deux étudiants n'oublient pas de chanter avec les autres manifestants.
En fait, j'ai vraiment envie qu'ils dégagent. C'est un système qui a corrompu, qui a volé.
Et ils accusent le gouvernement d'avoir tenté d'étouffer leur jeunesse.
Il y a beaucoup de chômage en Algérie, oui. Il y a des étudiants qui ont des masters 2. Ils sont tous les jours en bas de leur quartier en train de fumer, ils font rien.
C'est ça, par exemple, moi je suis en master 2 et je finis cette année et je me dis que dès que je finis, je sais que j'aurai pas de boulot. Je sais que je serai atteinte du chômage qu'il y a en ce moment en Algérie. Et c'est eux qui n'ouvrent pas de débouchés, c'est eux qui font tout pour qu'on n'avance pas, c'est eux.
Ils promettent ainsi de revenir. On ne va pas s'arrêter, nous sortirons chaque vendredi.
Un reportage de Waïba Filali.
Il est 7h05, le journal Thomas Larabie. Thomas, ils veulent un printemps climatique et social.
Oui, après la grève mondiale des lycéens et des étudiants hier, une marche du siècle est prévue aujourd'hui dans toute la France pour dénoncer l'inaction du gouvernement en matière d'écologie. Mais ils ne seront pas les seuls dans la rue, loin de là. Il y aura aussi des gilets jaunes pour leur acte 18, des sans-papiers, des forains et des opposants aux violences policières. Alors, place de la République à 15h, des syndicats, des ONG et des gilets jaunes vont en tenté le pari de la convergence des luttes pour montrer au gouvernement que les intérêts des uns et des autres ne s'opposent pas. Et le Dinas est militante pour le réseau écologiste Alternatiba. Elle croit en cette convergence.
On dénonce cette volonté du gouvernement d'opposer systématiquement les gilets jaunes et le mouvement climat. Cette volonté de montrer que, en fait, la transition écologique est quelque chose de bobo qui sort vraiment de certaines élites parisiennes. Mais au contraire, en fait, on voit, et c'est ce qui est dit par certains gilets jaunes quand on va discuter avec eux, il y a la nécessité de, bah en fait, comment on fait pour se déplacer si toutes les lignes de train sont fermées, s'il n'y a pas de transport public dans des zones rurales ou semi-rurales, comment en faire pour polluer moins quand on n'a pas la capacité de se chauffer décemment puisqu'on vit dans une passoire énergétique. L'alimentation biologique, par exemple, saine, elle ne devrait pas être réservée qu'à une élite qui a les moyens de se nourrir. Et justement, le fait d'enclencher une transition écologique, enfin, nous, ce qu'on dit, c'est que cette transition écologique-là, elle n'est pas possible sans mesures sociales.
Et le Dignas du collectif Alternatiba au micro de Célia Kiré. Autre rassemblement aujourd'hui, celui des forains. Des opérations escargots sont prévues dans toute la France, notamment sur le périphérique parisien à partir de midi. Ils dénoncent une ordonnance qui les oblige à répondre à des appels d'offres des mairies pour installer leurs manèges, ce qui complique les tournées foraines dans les villes. Une menace pour toute la profession, explique René Ayoun, le président de l'intersyndicale des forains.
Nous avons alerté le gouvernement que notre profession allait mourir à cause de cette ordonnance qui remet en cause tout le fondement d'occupation de nos activités, notamment les manèges, ce qu'on appelle manèges en isolé, et les implantations de fêtes foraines. Et on se retrouve aujourd'hui avec nos emplacements qui sont devenus précaires dans tous les sens du terme, parce qu'aujourd'hui, il y a un appel à concurrence, c'est-à-dire un appel à candidature. Suivant la personne qui répond, même si vous avez occupé l'emplacement pendant 50 ans, si la personne est jugée, on va dire, plus chatoyante côté financier à occuper votre emplacement, eh bien on vous vire quand même à le propre d'un revers de main. Donc nous, ce que l'on veut, c'est de revoir ces textes et de pouvoir en discuter sérieusement, donc nous laisser le droit de vivre et continuer la tradition populaire que représente la fête foraine et l'occupation des manèges dans les centres-villes.
Le président de l'intersyndicale des forains, René Ayoun. Pour la première fois, la France a rapatrié de Syrie 5 enfants de djihadistes français, des enfants de moins de 5 ans, orphelins et isolés, qui se trouvaient dans un camp au nord-est de la Syrie. Paris reste en revanche inflexible pour les adultes. Ils doivent être jugés sur le territoire où ils ont commis leurs crimes, rappelle le ministère des Affaires étrangères.
La crainte grandit sur le littoral de la Gironde et de la Charente-Maritime.
Après le naufrage du Grande America, on s'apprête à voir débarquer sur les plages des petites boulettes de fioul, celles du navire italien, mais peut-être aussi celles d'autres navires. C'est ce qu'on appelle le dégazage. Concrètement, les pétroliers et autres chalutiers profitent d'un naufrage pour polluer en douce et ne pas payer dans les ports. Mais pour Jackie Bonnemain, porte-parole de l'association environnementale Romain Desbois, le pire n'est pas à craindre. Selon lui, la réglementation s'est durcie depuis le naufrage de l'Erika en 99.
C'est vrai que certains commandants mal intentionnés profitaient à cette époque-là des marées noires d'importance pour en rajouter une tartine, si je puis dire, d'une manière anonyme. Mais depuis justement les événements de l'Erika et du Prestige, des nouvelles réglementations sont entrées en vigueur. La vigilance a été renforcée. Des survols par avions des douanes ou de la marine nationale ont coincé quelques navires, et pas seulement des pétroliers, hein, qui faisaient du dégazage clandestin. Ils ont été sévèrement sanctionnés. C'est une tendance qui, à mon avis, doit être pratiquement éradiquée.
Jackie Bonnemain de l'association Robin des Bois, il est 7h09 sur France Inter. On retrouve Pierre Veil pour la suite du 6-9.
C'était le journal de Thomas Larabie.